prédateur, chantons pour lui. Louons notre Rédempteur, car tout vient de lui. Il y eut un jour, il y eut une nuit, il fut une parole et tout se fit. Les cieux et la terre furent créés, mais quelque chose manquait. Un vis-à-vis à aimer, et il créa l'homme pour terminer. Gloire au Créateur, chantons pour lui. Louons notre Rédempteur, car tout vient de lui. Merci Jésus pour tes bienfaits, merci mon Dieu, tout est parfait. Ton œuvre est réussie, je te loue pour ce que je suis, épouse de Jésus-Christ.
Bonjour mes frères et sœurs.
Tout le monde va bien ce matin? Grâce à Dieu, c'est bien. Ah, je voudrais saluer nos frères et sœurs de Madagascar ce matin. On n'a pas beaucoup de nouvelles d'eux, mais je ne crois pas que c'est très brillant ce qui se passe là-bas. C'est un petit peu comme au Burkina, ils ont beaucoup de difficultés. C'est des pays très éprouvés, que Dieu les bénisse. Amen. Dieu vous bénisse là-bas, les châteaux. On pense à vous, on ne vous oublie pas, c'est vrai, le temps passe vite. Je vous écrirai un petit mot. Voilà. Eh bien, c'est l'été, hein? Mais enfin, on ne va pas pouvoir manger dehors aujourd'hui, il fait trop froid. Hein? Bien, je vous parlais de connaître, vendredi soir, je vous parlais de connaître la personne de Dieu et sa puissance. Ce matin, ce que je vais vous annoncer risque d'être un peu mal pris par des esprits religieux. Et je voudrais que, avant de juger trop rapidement, vous réécoutiez ce que je vous dis, parce que c'est une profondeur dont on n'a pas vraiment l'habitude. Il y a des choses peut-être qui vont vous choquer, mais bon, je compte sur l'Esprit de Dieu pour vous aider à comprendre, et si vous avez un esprit religieux, que vous puissiez être délivré afin de connaître vraiment la vérité et comprendre ce que je vais vous dire là ce matin. On va se lever et je voudrais vous lire Matthieu 22, 29 d'abord. C'est Jésus qui parle justement à des religieux. Et il leur dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Vendredi soir, donc, je vous parlais de connaître la personne de Dieu, la puissance de Dieu. Et nous avons fêté mes 40 ans de conversion il y a un mois de ça, déjà. Et durant ces 40 années, vous savez que j'ai beaucoup voyagé dans presque 60 pays en prêchant l'Évangile. J'ai rencontré beaucoup de chrétiens dans toutes sortes de dénominations religieuses parce que je ne suis pas sectaire. Je vais partout là où on m'invite. Je suis comme Irène Mathieu, je suis là où on me pose. J'ai remarqué que la plupart des chrétiens connaissent les deux choses dont Jésus parle ici. Le problème, c'est que certains connaissent les Écritures, mais ne connaissent pas la puissance de Dieu. Et d'autres connaissent la puissance de Dieu, mais ne connaissent pas bien les Écritures. J'ai remarqué ça. C'est un problème. Mes sœurs, il ne suffit pas de bien connaître les Écritures. Il nous faut également connaître la puissance de Dieu, je dis bien également, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître les Écritures, mais je dis qu'il faut connaître la personne la puissance de Dieu, la personne de Dieu. Seule la connaissance des Écritures, ça ne suffit pas pour connaître la puissance de Dieu, la personne de Dieu. Les Écritures, ça ne suffit pas. On me dira, ah bon, ben non. On doit le connaître lui-même. Et pour le connaître, eh bien, on doit avoir des relations avec lui. Si, par exemple, voilà, vous connaissez, vous avez vu Giscard d'Estaing à la télé, vous dites, ouais, je connais Giscard. C'est pas vrai, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, mais vous ne le connaissez pas. Eh bien, beaucoup de gens s'imaginent connaître Dieu parce qu'ils ont lu des choses à son sujet, voilà, ils s'en font une idée. Nous ne pouvons pas prétendre connaître Dieu si nous n'avons pas une relation avec lui. C'est-à-dire, il faut que ça soit un échange avec lui. Sinon, si on ne s'attend même pas à ce qu'il communique avec nous, c'est quoi? Alors, le chemin de la connaissance passe par la communication, mes frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que vous preniez ça à cœur, la communication. Communiquer avec Dieu. Bien connaître la Bible, ce n'est pas suffisant. Les sacrificateurs, au temps d'Hérode, ils connaissaient très bien la Bible. Quand les mages sont arrivés à Jérusalem, ils ont demandé, voilà, on a suivi l'étoile, on sait qu'il y a un roi des Juifs qui doit naître, par contre on ne sait pas exactement où est-ce qu'il doit naître. Ben, les sacrificateurs n'ont pas dit, écoutez voir, on va voir ça dans notre concordance. Il y en a un qui a dit, oui, moi je viens de m'acheter le dernier online Bible, n'est-ce pas? On va regarder, repasser demain, on vous dira, on va chercher. Non, ils ont dit, ah, Bethléem, en Judée, ils savaient. On leur pose une question, paf, ils connaissaient la Bible, ils connaissaient bien les Écritures. Pourtant, aucun de ces sacrificateurs et scribes ne se sont mis en route avec les rois mages pour aller voir Jésus-Christ. Aucun. Ça ne paraît pas bizarre, ça. Ils sont restés scotchés à leur poste. Bon, ben voyez, celui-là, c'est à deux pas, vous prenez la première à gauche, puis la deuxième à droite, vous avez tout droit devant vous, quand vous voyez un cinéma, vous tournez, c'est marqué direction Bethléem, et vous y êtes. Voilà, voilà, voilà. Ils sont restés sur place, comme des policiers à qui vous demandez votre chemin, des fonctionnaires, quoi. Connaissaient la Bible de fond en comble, mais ils sont pas allés personnellement à la recherche du Messie. Par contre, ces astrologues qui ne connaissaient pas sans doute les Écritures, eh bien, ils cherchaient avec ardeur le roi Jésus-Christ. C'est inutile de connaître la Bible si on ne connaît pas la personne de Dieu. Ce qui est écrit dans la Bible, ça doit être écrit dans vos cœurs. Dans vos cœurs de chair animés par l'esprit nouveau que Dieu vous a donné. J'écrirai mes lois dans votre cœur et personne ne dira plus à son prochain, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Jérémie 31, 33, 34. Cette connaissance intellectuelle, écrite sur du papier, ce n'est pas suffisant. Cette écriture doit être dans vos cœurs. Si elle est dans votre cœur, alors vous connaissez Dieu. Je voudrais prendre un exemple, c'est là que ça va coincer. Je voudrais que vous observiez Paul. Il nous a dit qu'il avait une écharde dans la chair. On ne sait pas exactement ce que c'était cette écharde dans la chair. Mais il y avait quelque chose dans sa vie qui le gênait, hein, qui lui faisait mal comme une épine, comme quelque chose. Vous savez, quand on a une épine, alors vous pouvez être en pleine forme, être bien, tout ce que vous voulez, vous avez une épine, ça fait mal, vous pensez qu'à ça. Ce n'est pas comme ça pour vous, hein? Il en parle comme d'un messager de Satan, comme un démon, quoi. Ça fait être quelque chose de très pénible. Il a prié trois fois, demandant à Dieu de le délivrer de ça, mais Jésus finalement lui répondit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Fais avec, comme je vous disais l'autre soir. » 2 Corinthiens 12, 9. Et voilà, Paul, il sait à quoi s'en tenir. Est-ce qu'il a encore prié pour que Dieu le délivre? Non. Jésus lui avait parlé et tout était réglé sur une parole de Dieu. Voilà. Mais ce n'était pas une parole écrite. Ce n'était pas écrit, ça. Pour nous, c'est écrit parce que Paul l'a écrit. Et pour lui, ce n'était pas écrit. La parole, moyen de communication entre Dieu et nous. Paul communique avec Dieu dans la prière, il parle et Ils savaient mener des transactions avec Dieu, parler et écouter. Alors, frères et sœurs, les épreuves, vos difficultés, elles ont une raison. Dieu vous a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Ou est-ce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter? Est-ce que vous avez trouvé dans la Bible? Paul ne pouvait pas trouver dans la Bible cette réponse. Lire la Bible, c'est très différent que de connaître la pensée de Dieu à votre sujet, pour votre problème, à vous personnel. Bien sûr que la Bible répond et donne des choses très générales, mais pour vous, Dieu parle encore, il peut vous inspirer, vous. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que c'était cette écharpe dans la chair de Paul. Il y en a qui disent que c'était, il avait mal aux yeux. D'autres disent qu'il avait un problème, une maladie. D'autres disent qu'il y avait à Corinthe, s'il te plaît, tu ne joues pas avec les murs, merci. Quelques-uns disent que c'était un religieux dans Corinthe qui n'arrêtait pas d'embêter Paul et que ça lui causait des soucis pour l'Église et que voilà, c'était terrible pour lui. Bon, vous n'avez pas de problème avec un religieux qui vous persécute, donc on pourrait dire ce verset ne vous concerne pas alors. Vous n'avez pas un problème dans vos yeux ou peut-être c'est une maladie qu'il avait, on ne sait pas. En tout cas, il y a une chose, puis tout le monde n'est pas malade, hein. Mais il y a une chose en tout cas qui est sûre, c'est que nous avons tous des faiblesses avec le péché. Nous avons tous un péché qui nous afflige, un sale truc, qui nous pousse à chuter. Et pour certains, ça sera l'orgueil, pour d'autres, ça sera l'argent. L'argent. Un mauvais caractère, des convoitises de la chair, un truc contre nature, enfin bref. Une écharpe, quelque chose qui est à vous, un machin comme ça, sur, et puis qui vous embête dans votre chair. Un agent de Satan qui vous gifle. Alors vous lisez dans la Bible, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Romains 6, 14. Et vous lisez plus loin, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1, 2. Vous connaissez ces versets? Vous connaissez ces écritures? Et pourtant, ben, il vous semble toujours que vous êtes giflé par Satan, la tentation, les fois depuis de temps en temps des chutes. Ne vous pouvez pas mettre en pratique cette vérité qui se trouve dans ces textes. Et frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens, sinon tous, qui vivent captifs de ce dilemme. Si un autre chrétien vient vous demander, par exemple, de l'aider au sujet d'un péché, d'une tentation, d'un truc, vous savez très bien lui citer les textes qui enseignent comment vaincre le péché, et vous, vous n'arrivez pas à vaincre le vôtre. Dilemme de tous les prédicateurs. Et l'autre frère, il va rentrer chez lui avec la connaissance des Écritures, mais sans avoir l'expérience de la façon. Vous comprenez? Et la plupart des chrétiens ne connaissent que les textes, mais pas ce que Dieu a à leur dire à eux. Ils ne connaissent donc pas sa puissance. Alors, on va supposer une chose, on va supposer que vous soyez irritable. Irritable. Vous allez voir un frère, et vous lui demandez, « Bon, bah, écoute, mon frère, voilà, je voudrais que tu pries pour moi, que tu me conseilles. » Alors il va te dire, « Mais écoute, mon frère, je crois que ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu pries Dieu et que tu lui demandes de t'enlever la racine du péché de colère et tout. » Ah, que ça serait bien si ça se passait comme ça. On demande à Dieu, il vient, et avec ses petits bras musclés, il enlève la racine de la colère, hop, c'est fini, c'est terminé, on est, ah, plus de colère, c'est magnifique. Mais Dieu ne fait pas les choses comme ça. Ça se saurait. Alors, au lieu de voir votre colère se déraciner, eh bien, il vous semble qu'au fond, elle s'enfonce plus profond en vous et que, bon, ça fait que de se retarder, mais quand ça pète, ça pète. Oui ou non? Allons, allons, allons. Pourtant, vous aimez Dieu, vous craignez Dieu, alors vous priez une fois, deux fois, trois fois, et finalement, vous demandez, mais enfin, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je ne suis pas normal ou quoi? Je ne suis pas affranchi? Ah, si vous en arrivez là, Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre. Il va dire, tu t'occupes de ton péché, mais moi, je ne m'en occupe pas. Je m'occupe de te tuer. Quoi? Dieu n'extirpe pas le péché de notre chair, mais il cloue notre chair, notre nature, notre vieil homme à la croix. Ah, voilà, ça y est, j'ai compris quelque chose. Ah, j'ai compris quelque chose. Alors vous êtes tout content, vous partez avec ça. Bon, c'est Dieu, Dieu est en train de me... Je suis en train d'être mis à mort par Dieu, c'est formidable. Quelques jours après, boum, vous remettez ça. Alors là, il y a un frère qui vous dit, ça ne suffit pas que tu saches ça. Il faut que tu te considères vraiment maintenant comme mort à la croix, hein, ce que je vous ai prêché dernièrement. Il faut que tu te considères comme étant mort à la croix. Formidable, vous avez compris une nouvelle chose. Alors vous partez vainqueur avec ça. Mais vous avez beau vous considérer comme mort, votre colère, vous la sentez, là, ça monte, ça monte. Alors vous dites, bon, ben, c'est une méthode qui ne marche pas, ça ne sert à rien, moi. Du moins, ça me semble qu'enfin, avec moi, ça ne marche pas. Un autre frère va vous dire, mais mon frère, tu n'as pas compris encore, il y a autre chose. Il faut que tu confesses que tu as été crucifié avec Christ. Oh, je vais confesser, je vais le dire, je vais en parler, je vais dire, voilà, Jésus-Christ, je dis la vérité, je confesse que j'ai été crucifié avec Christ, n'est-ce pas? Eh, ça c'est sans doute le secret, c'est ça le secret. Hein, tous ces gens qui courent de convention en convention, pourquoi vous croyez? Et paf, une nouvelle colère. Combien de chrétiens finissent par abandonner Dieu parce qu'ils se découragent, ou alors ils n'abandonnent pas Dieu? Parce que ils aiment bien les frères et sœurs, ils aiment bien les réunions, ils aiment bien les chanter. Et puis, qu'est-ce que les gens diraient s'ils n'allaient plus à l'église? Donc, ils continuent à y aller, mais dans leur cœur, c'est devenu froid, c'est devenu... Voilà, quoi, bon, voilà, c'est comme ça, voilà. Vous voyez, connaître la Bible, ce n'est pas suffisant. Oh Dieu, ta parole déclare que mon vieil homme a été crucifié avec Christ, alors comment se fait-il que je n'arrive pas à vaincre ce péché-là? Alors Dieu va vous donner une révélation, une inspiration à dire, ton péché de colère, c'est qu'un fruit sur l'arbre. Mais la racine, elle produit bien d'autres fruits et toi tu t'occupes que d'un. Et tu négliges tes problèmes de jalousie, ça te semble mineur. Hein, ton mauvais caractère, tes pensées impures, tout ça, tu t'occupes que de tes colères, il n'y a que ça. Parce que tout ça te déshonore, les colères, on les voit, elles explosent devant tout le monde, et puis après, tu es malheureux, tu es gêné parce que tout le monde te voit en colère, alors que tes jalousies, c'est mineur, puisqu'il n'y a que toi qui vois. Tu ne t'en occupes pas vraiment. Waouh, ça y est, maintenant je suis sur le chemin de la victoire, je vais m'occuper de tout globalement, je ne vais plus faire de détails, je ne vais plus me laisser hypnotiser par la colère, je vais... Et puis tu trouves un nouveau casse-pied de service et tu te refous en colère encore. Allez, allez, ça vous arrive jamais? Je parle de la colère, c'est plus trop de choses. La colère, je connais bien, donc c'est pour ça que je parle de ça. Alors là, tu es vraiment à bout, tu es à bout de force, tu ne comprends plus. Tu vas trouver Dieu dans la prière une fois, deux fois. Et puis Dieu te dit, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie après être entré dans ma victoire? Parce que tu as compris que ce n'est pas ta victoire, en fait, c'est la sienne. Tu dois rentrer dans la victoire. Alors, qu'est-ce que tu as fait de ta vie depuis que tu es entré dans ma victoire? Et Dieu te montre, alors, que ce que Jésus a accompli sur la croix ne peut subsister que par la communion avec lui. Dans la mesure où tu es en communion avec lui, alors il te montre que ta vie de prière, ta vie d'études bibliques, ça laisse à désirer, hein, que tu te lèves tous les matins en catastrophe, et puis que tu ne prends pas le temps de communiquer avec lui, un petit café, tu te tires, et puis dans la voiture, Seigneur, bénis ma journée, merci mon Dieu. Oh cochon, l'autre, t'as vu comme il m'a doublé? Ouais, c'est reparti. Dieu n'est pas en train de te dire que l'œuvre de Jésus à la croix est insuffisante. Il te dit simplement que ce que Jésus a accompli à la croix doit être gardé vivant dans ton atmosphère, dans l'atmosphère de ta communion avec Dieu, sans cesse, prier sans cesse, être dans cette atmosphère. Quelques jours après, avoir compris, tu t'emportes de nouveau et tu pries, et tu demandes à Dieu de te parler. Et là, Dieu te dit, ma grâce suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse. Ah, là, c'est le moment où le verset prend toute son ampleur. Est-ce à dire que je me mettrai en colère jusqu'à mon dernier jour? Ma grâce suffit, car ma puissance agit dans la faiblesse. Ça veut dire ça? Ça veut dire que je vais toute ma vie avec ce truc-là qui me colle? Pourquoi je suis moi? Pourquoi je ne suis pas un autre?
J'ai les problèmes d'un autre, ça irait tellement mieux, il me semble.
Dieu te dit, mais t'es faible, tu comprends ce que ça veut dire? Et moi, je suis fort. Et puis, j'aime tellement quand tu viens vers moi, tel que tu es, avec ce grand désir de te perfectionner, de grandir, de devenir comme papa. Voilà ce que Paul a compris. Alors, Paul médite, ça veut dire réfléchit, et puis il comprend que Dieu seul est sans péché, que Dieu seul est sans erreur, que Dieu seul est sans défaut, que Dieu seul est sans ennemi. Il n'a pas d'ennemi. Il n'a pas d'ennemi. Oh, mais le diable, c'est l'ennemi. Mais non. Pas l'ennemi. C'est une grimace, c'est une vapeur, c'est rien du tout. Il ne risque rien, je veux dire. Vous comprenez? Paul comprend que son écharde était la marque visible, c'est la marque visible de son humanité. Alors, il comprend ça dans la communion avec Dieu. Et il dit, alors je me glorifierai bien volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Sans écharpe dans ta chair, sans imperfection, sans frère qui t'embête, sans sœur qui te casse les pieds, sans maladie, sans trait de caractère un peu difficile, sans tentation, c'est par ta propre puissance que tu agirais. Tu ne chercherais pas la puissance de Christ, tu ne prierais plus, tu n'irais plus le trouver. Combien on a vu de gens dans la drogue, et une fois qu'ils étaient délivrés, plus personne. Ben c'est la même chose, Dieu, il veut tout pour nous, il fait tout pour nous, et alors s'il nous donne tout, ben on ne va plus aller le voir. Ça vous paraît bête, hein, ce que je vous dis, mais ce n'est pas bête du tout, c'est peut-être mal dit. Mais réfléchissez, pensez, méditez. Tu n'aspirerais pas, telle une biche, après les eaux paisibles, tu n'aspirerais pas à ce que la puissance de Christ repose sur toi. Tu aurais la puissance, tu serais parfait. 2 Corinthiens 12, 8, 10. Tu ne viendrais plus parler avec Jésus. Oui, mais Michel, la Bible dit qu'il faut renoncer au péché. Il faut renoncer, tu dois renoncer. Mais j'y renonce. J'y renonce. Je suis retenté. Et parfois, ma foi, je succombe. Ça, c'est pas bien du tout. Vous savez que c'est très vilain, frère Michel. T'es donc pas affranchi? Et toi, tu l'es peut-être? Ça va bien dans ta vie? Où est-ce que t'en es, toi qui me juges? Ah, je comprends mieux l'apôtre Paul qui dit, je ne me laisse juger par personne. Personne n'a le droit de nous juger, puisque tout le monde est comme moi. On en est tous là, mes frères et sœurs. Et tous ces pasteurs qui nous font croire à leur super sainteté et qui se montrent en exemple, bande d'hypocrites, désespoir du peuple de Dieu. Ils désespèrent les chrétiens avec leur image fausse de perfection. Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une façon de progresser dans la vie spirituelle, c'est d'obéir à tout ce que Dieu te dit. Personnellement, au travers de la Bible, au travers des prédications, au travers de ceci et de cela, et quand il te parle à toi personnellement, il faut obéir. Mais tu n'arriveras jamais à sa cheville. C'est pas pour toi de dire, oh ben puisque c'est comme ça, allons-y, péchons tant qu'on s'en fout de toute façon. Non, c'est pas ça. Mais si vous refusez de recevoir ce que Dieu veut pour vous, vous ne ferez jamais aucun progrès. Frères et sœurs, j'aime mieux être en compagnie de quelqu'un qui connaît Dieu qu'en compagnie de quelqu'un qui connaît la Bible parfaitement sans connaître Dieu. Ces gens-là sont durs, impitoyables, méchants, sectaires, légalistes et hypocrites. Tout ce que j'aime pas. Quand vous écoutez quelqu'un, sa façon de s'exprimer, vous voyez sa foi. Vous voyez son amour et vous pouvez juger à quel point ils connaissent Dieu. Regardez Violette et Raphaël. Est-ce qu'ils connaissent bien la Bible? Ils connaissent une trentaine, une quarantaine de versets. Ils ne savent pas lire. Mais ils connaissent Dieu. Ça se sent tout de suite. Ça ne se sent pas tout de suite. Est-ce que vous les avez trouvés parfaits? Non, bien sûr que non. En tout cas, ils ne nous jugent pas. Pourquoi ils ne nous jugent pas? Parce qu'ils sont très conscients que, eux aussi, ils ont leurs imperfections. Comme nous d'ailleurs. Ils connaissent Dieu.
Pourquoi Dieu a-t-il voulu que Paul nous raconte son histoire d'écharpe dans la chair? Parce que ça, Violette et Raphaël sont persuadés que c'est une écharpe. Si, ils disent c'est une écharpe dans la chair. Alors je dis c'est une écharde. Ah mon bon frère, qu'est-ce que c'est donc ça? Mais c'est une épine. Ah bon? 2 mois après, vous les revoyez, vous parlez avec eux et vous ressortent l'écharpe. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas été... Mais c'est tellement beau. Dans la vraie vie, ils savent très bien se débrouiller avec Dieu et avec eux-mêmes, avec leurs péchés, avec tout le monde. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu que Paul nous raconte l'histoire de son écharde dans la chair et sans nous dire clairement de quoi il s'agit, en plus? Parce qu'à la limite, on s'en fout de ce que son écharpe dans la chair. Qui n'a pas d'écharpe dans sa chair? Paul l'a écrit. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit dans son livre? Pourquoi Dieu a voulu que l'histoire de l'écharde de Paul soit dans la Bible? Pourquoi? Quelle importance? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Il explique ce qui lui est arrivé. Hein? Il n'a pas trouvé dans la Bible la solution à son problème. Vous allez me dire, oui, mais à l'époque, la Bible, il n'y en avait pas, elle n'était pas comme la nôtre. Ben oui, mais ça n'empêchait pas d'avoir une communion avec Dieu. Vous voyez, frères et sœurs, combien de nos frères et sœurs persécutés en Russie, en Chine, dans les pays totalitaires, dans les pays musulmans totalitaires, n'ont pas de Bible, ne peuvent plus lire leur Bible, subissent des lavages de cerveau, mais connaissent Dieu. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ça, on ne peut pas leur enlever. Ben Paul n'avait pas de Bible, pas de solution dans la Bible. Deuxièmement, il savait par la Bible que Dieu pouvait le délivrer de son problème, de son écharde. Il savait par la Bible. Parce que tout est possible à celui qui croit, demandez, vous recevrez, et toutes ces choses. Donc, il savait par la Bible qu'il pouvait prier. Alors, il a prié. Une fois, rien. 2 fois, rien. 3 fois, et Dieu lui parle. Et ce que Dieu lui a dit, c'est dans notre Bible. Mais ce n'était pas dans la sienne. Michel, ce que tu nous dis là, est-ce que c'est vraiment bien biblique? Ma grâce te suffit. En tout cas, du temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas biblique. La Bible ne dit pas que l'écharpe de Paul, c'était une maladie, une tentation de péché ou une personne dans l'Église qui s'opposait à lui. Là, ça, c'est des suppositions. La Bible ne dit pas ce que c'était que cette écharpe. Et tant mieux! Tant mieux! Je vous ai parlé de tentation de péché, pourquoi? Parce que je sais que c'est le problème de tous les chrétiens. Or, Paul était un chrétien. Et c'était pour lui, certainement, peut-être, une façon très pudique de nous dire la chose. Ce qui compte, mon frère, ma sœur, c'est que tu aies toujours confiance dans la grâce de Dieu. Que tu ne te décourages pas à cause de ton imperfection, à cause de ta maladie, à cause des persécutions, à cause de tes tentations. Que tu n'abandonnes pas la foi, que tu n'abandonnes pas ta joie, que tu n'abandonnes pas ton ministère, parce que voilà, tu te sens indigne. Mais qui n'est pas indigne? Nous sommes tous indignes. Que tu n'abandonnes pas ton engagement, parce que tu dis, voilà, je me suis engagé dans les eaux du baptême, puis regarde ce que je suis devenu. Ben non, j'arrête parce que vraiment, ce n'est pas possible, je suis un hypocrite. Non, tu n'es pas un hypocrite. Ceux qui connaissent la Bible et te la fourrent sous le nez en t'accusant, c'est ceux-là les hypocrites. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Paul ne nous dit pas ce que c'était que son écharde. Et peut-être que toi, tu ne peux pas dire ce que c'est ton écharde parce que tu as honte. Alors au moins, ce que Paul nous apprend, c'est qu'on peut le dire à Dieu. Priez 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça veut dire prier, prier tant que vous voulez. Seigneur, il y a un démon qui me gifle. Vous savez, une gifle, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai reçu des gifles. Premièrement, ça fait mal. Et deuxièmement, c'est vexant. Mais vexant. Un coup de poing, c'est moins vexant. Un coup de pied derrière, c'est moins vexant. Mais une gifle? Mais c'est ça vous a jamais fait ça? C'est un vexant, une gifle, c'est quelque chose. Tu souffres et en plus tu es vexé. C'est-à-dire, voilà, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi le diable s'acharne comme ça sur moi? Mais je ne sais pas, mon frère, je ne sais pas, ma sœur. Puis la Bible ne te le dit pas non plus. Mais grâce à Dieu, grâce à Paul, je peux te dire une chose en prenant la Bible.
persévère à faire tout le bien que tu peux faire. Ne te décourage pas. Prie jusqu'à ce que Dieu te parle. Ce que Dieu a dit à Paul, dans ce cas précis, ce n'était pas du tout biblique. C'était nouveau. Pour toi, ce ne sera pas complètement nouveau, puisque Paul l'a déjà entendu puis qu'il l'a consigné dans les Écritures. Tu as au moins cette certitude. La grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Alors tu peux lui demander quand même de t'expliquer un peu plus en détail. Tout ce que je vous ai dit là, par exemple ce matin, c'est des détails que j'ai reçus du Seigneur petit à petit au cours des 40 ans de ma vie chrétienne. Et tu sais pourquoi tu peux lui demander de te parler? Ben, je vais te le dire. Pourquoi? Tu peux lui demander de parler parce que c'est lui qui te demande de lui parler. Et s'il te demande de lui parler, ce n'est pas pour garder le silence. Le silence, mes frères et sœurs, c'est le plus grand des mépris. Vous voulez mépriser quelqu'un, vous vous taisez. Mais Dieu ne vous méprise pas, il vous aime, il veut vous parler. Il veut vous parler. Pense à la prière comme une conversation avec Dieu à qui tu parles. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour cette journée. Nous te bénissons, Seigneur, pour le beau soleil que tu nous as donné. Merci pour cette bonne nourriture. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Et tu fais que mon frère et ma sœur qui est malade puissent être guéris. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu bénis mes affaires. Amen. Merci, Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. C'est ça la prière? Ce n'est pas ainsi que vous allez avoir une relation avec Dieu. Vous aurez prié. Moi, je vois des fois des gens qui prient. Je ne veux pas les imiter parce que vous allez avoir peur. Ça hurle. Alors ils hurlent. Éternel, notre Dieu, tout puissant, nous te bénissons, blablabla. On dirait que, oh là là, on dirait qu'ils voient Jésus. Ils sont là presque en transe et tout. Puis après, vous discutez avec eux. Ils sont tout petits. Ils n'ont pas une relation avec Dieu. Alors, comment Dieu va-t-il te parler? Audiblement, peut-être. Par une de mes prédications? Peut-être bien, sûrement, oui. Par une inspiration? Très certainement. En tout cas, rends-toi sensible. Dès vendredi, je vais commencer l'enseignement sur la contemplation. Dieu parle, mais nous ne savons pas écouter, mes frères et sœurs. C'est une chose qui était oubliée dans le milieu évangélique. En tout cas, de tout cela, retiens bien une chose, ne te décourage pas, sa grâce te suffit. Amen. Merci Seigneur Dieu, merci pour cette prédication que tu m'as aidé à prêcher le plus sagement possible. Je te demande, mon Dieu, de permettre que ceux qui sont très religieux, bibliques, réfléchissent et comprennent ce que j'ai dit, qu'ils ne soient pas choqués bêtement, mais qu'ils comprennent qu'ils aient une révélation de ces choses et qu'ils aillent plus loin que simplement leur instruction conventionnelle. Merci Seigneur Jésus de leur parler, de montrer que tu as un cœur et que tu t'adresses à nos cœurs. Merci Seigneur Jésus de nous soutenir dans nos moments de difficulté, de faiblesse et d'agir au moment de nos faiblesses. Que ton nom soit béni et glorifié, notre Dieu. Amen. Amen.
Eh bien, frères et sœurs, je pense que vous avez peut-être reçu mon petit message d'invitation, tous autant que vous êtes là. C'est la clôture de l'année scolaire pour la fête de l'étude biblique également, pendant 2 mois, vacances, un break pour moi, pour les enfants. Et je voulais aussi vous montrer quelques traces de ce que nous pouvons faire ensemble pendant ces études bibliques où personne n'est témoin de ce que je leur transmets, sauf le Seigneur. Et c'est pour lui, pour sa gloire, pour son nom, que j'écoute justement sa guidance par rapport aux enfants, par rapport à moi-même, parce que j'en ai vraiment besoin aussi. Je n'ai pas toujours l'énergie que je voudrais avoir, mais c'est lui qui me l'insuffle. Et je lui en suis vraiment profondément reconnaissante. C'est quelque chose d'énorme pour moi. J'atteins quand même bientôt les 73 ans, c'est pas vieux. Dans mon cœur, je suis encore à l'âge de 20 ans, ça je peux vous le dire. Mais mon corps, lui, ne dit pas ça. Mais je m'en fiche, je passe par-dessus. Le Seigneur est avec moi, c'est le principal. Et il est aussi avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'ils vont mettre tout leur cœur, tout leur sérieux, certainement aussi, dans ce qu'ils vont vous montrer, qu'on a travaillé quand même un petit peu ensemble pendant quelques séances, disons une douzaine de séances de mercredi, une douzaine de séances de samedi pour les plus grands. Vous savez que j'ai deux classes, deux niveaux différents. Il y a les jeunes du mercredi qui sont 6 et les jeunes du samedi qui sont 3, les 3 plus les aînés. Et je vous annoncer en même temps que l'année prochaine, si Dieu me prête encore vie, bien sûr, c'est-à-dire au mois de septembre, à la rentrée, j'ai décidé de faire passer ceux qui étaient le mercredi avec moi, les deux aînés de 10 ans, Rebecca et Mathieu, dans le groupe des grands. Par contre, je vais en perdre deux, mais je vais en gagner une. Je pense que je vais gagner Élise. Est-ce que les parents sont d'accord? Donc, j'en perdrai qu'un. Et donc, voilà, alors je voulais vous dire que j'ai été inspirée par le Seigneur, vous allez voir de quelle façon. Je ne veux pas être longue parce que, bon, l'heure tourne. Et puis, je suis consciente que quand même, les enfants sont peut-être un petit peu stressés. Moi, encore plus qu'eux. Et je vais vous les laisser entendre ce qu'ils ont à vous dire. Et je voudrais aussi vous dire un petit message. Justement, vous savez qu'en ce moment, Michel nous parle beaucoup de méditation, de contemplation, de réflexion, à mon amour. Et je réfléchis aussi un petit peu. Et à un moment donné, je me suis posé la question en disant, qu'est-ce que je suis censée... Pourquoi est-ce que je suis censée être missionnée auprès de Dieu dans ma vie depuis que je suis à la communauté? Je ne trouvais rien de spécial. Bon, je fais un peu de cuisine, un peu de machin, un peu de truc. Mais enfin, bon, je ne trouve pas ça tellement à la gloire de Dieu. Franchement, je n'ai pas fait une mission terrible. Et je me suis rappelé une parole quand je suis arrivée à la communauté. Un homme m'a dit, Simone, j'ai bien peur que tu nous aies mis trop haut sur un piédestal. Ne t'attends pas quand même à ce que nous soyons tous des grands saints spirituels. Tout ce que je te demande, c'est de participer un petit peu avec nos enfants à faire quelque chose, si tu peux et si tu veux. Oh, je dis, mais bien sûr, moi j'aime bien les enfants, j'en ai eu 4, moi, ça ne me dérange pas du tout. Et effectivement, depuis maintenant, combien ça fait ? 93... 16 ans que je suis à la communauté. 16 ans. Et 16 ans, ben, mine de rien, semblant de rien, je ne sais pas, je m'occupe des enfants, effectivement. Et je me suis trouvé là la mission que cet homme de Dieu, ce grand serviteur de Dieu, que nous avons la grâce que Dieu nous a mis à notre tête, c'est-à-dire Michel, qui t'est reconnu, n'est-ce pas? Et oui, c'est lui qui m'a mis dans le cœur de m'occuper des enfants. Et voilà, je crois que c'est là ma mission la plus importante. Et je m'y attelle de tout mon cœur, j'essaie de le faire avec tout mon amour. Et voilà. Et vous allez entendre ce que mes enfants et moi, nous avons préparé. Ce sont mes enfants, mais ce sont les vôtres aussi. Hein. On se le partage avec Dieu. Voilà, que Dieu me bénisse. Je crois qu'il le fait, et j'en suis même certaine, et qu'il le fait aussi au travers de vos enfants. Vous allez être fiers, fiers d'eux. Je le souhaite en tout cas. Alors, à tout de suite. Alors maintenant, je vais appeler justement les enfants. Ils attendent que ça. Les élèves de l'étude biblique du mercredi matin. Et dans l'ordre, s'il vous plaît, comme Dieu aime. Vous venez, les enfants ?
Voici le nom des quatre évangélistes. Voici le nom des 12 disciples de Jésus. Barthélemy, Thaddée, Jean, Matthieu, Thomas, Judas, Pierre, Simon, Jacques, André, Philippe, voici quelques versets tirés des trésors de la foi. De même, Christ ayant été offert une fois pour ôter les péchés de plusieurs, paraîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour obtenir le salut. Jean 12, 46. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mangera vivra par moi. Jean 6, 57. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Je donne la vie éternelle à mes brebis. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Jean 10, 28.
Quoi que vous demandiez, je le ferai en mon nom. Quoi que le Père soit glorifié par le Fils.
Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous.
Je suis né, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi et qu'il ne périsse point. Hébreux 9, 28.
Comme le Père qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 16, 1.
Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité.
Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Jean 6, 37.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
Quiconque vit et croit en moi n'aura point pour toujours. Crois-tu cela? Jean 11, 26.
Bon, maintenant j'appelle la classe des grands, c'est-à-dire Julie, Samuel, Benjamin.
Bonjour. Notre mamie nous a chargé de vous annoncer une très grande nouvelle, celle de son mariage. Elle et son futur mari n'ont pas encore fixé la date exacte des préparatifs, car cela dépendra du temps qu'ils auront pour les préparatifs de ce mariage. Notre mamie a aussi évoqué le fait que cela coûterait sûrement très cher, car elle était beaucoup plus pauvre que son mari, qui lui était considérablement riche. Mais
l'urgence de ce mariage a été décidée à la suite d'un cauchemar que notre mamie a fait. Elle s'est réveillée en pleine nuit et a prié au Seigneur pour ne plus retomber dans ce cauchemar. Elle a entendu une voix qui lui disait deux mots, « Nouvelle Jérusalem ». Elle s'est rendormie et sa prière a été exaucée. Les jours suivants, elle a bien réfléchi à ce que cette voix lui avait dit et a demandé à son futur mari qu'est-ce que cela pouvait avoir comme conséquence dans sa vie.
Son futur mari lui a répondu « Rappelle-toi que Dieu ton Père t'aime tellement qu'il souhaite que tu sois prête pour le grand jour de tes noces. Il souhaite aussi que tu portes sur ta grande robe blanche les 12 pierres précieuses qui ornaient le pectoral des grands sacrificateurs juifs. Exemple, topaz, émeraude, calcédoine, saphir, sardonyx, etc. »
Bon, bah donc maintenant vous connaissez le nom de son futur mari. Jésus, qui sera aussi le vôtre et celui de tous les croyants en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Alors maintenant, c'est le final. Le final, que j'appelle d'abord les musiciens. Stéphane, notre pianiste. Stéphane Royer, notre guitariste électrique Olivier et notre batteur, mon fils Eric, d'abord, qui se mettent en place. Ensuite, j'appelle mon chef des chœurs, Alain, s'il te plaît. Et après, tous les choristes enfants, c'est-à-dire les six, les trois sont déjà là, donc il n'y a plus que six. Et peut-être, oui, pourquoi pas. Non, Didier, tu peux. Emma aussi peut. Mais il y a ici aussi d'autres enfants que j'ai eus, moi. Vous vous rappelez lesquels? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'elles sont là? Priscille, est-ce que tu es là? Esther n'est pas là. Non. Alors, en souvenir de mes anciens enfants, qui sont devenus des adultes, eh bien, je voudrais qu'ils chantent avec tout le monde. Voilà, tout ça je le dédie à Dieu, à notre serviteur Michel et à vous tous les parents qui m'ont bien aidé en envoyant régulièrement vos enfants. Je vous remercie de tout mon cœur parce que ça m'aide aussi et croyez-moi, je vous en suis reconnaissante, vraiment. Voilà, si on peut chanter l'Alléluia du barbare, je crois que c'est le succès assuré. Je crois que ça a été...
Plus nombreux, les enfants, que nous sommes arrivés au château.
Ah oui.